la lui refuser son huile. Mais aussi, que dire au singulier personnage dont la présence remuait en eux un monde de souvenirs? Son charme agissait encore sous les haillons. Il prit l'huile qu'on lui donna au bout d'un instant, et avec sa courtoisie habituelle, il remercia et se retira. Celui qui demande des choses difficiles donne en même temps le courage de les accomplir. Le retentissement de la grande scène devant l'évêque et la foule d'assises n'était pas près de s'oublier. Ce spectaculaire adieu au bien de ce monde faisait du fils Bernardone un être à part. On le guettait aux actes. Et que faisait-il? Il parcourait la ville avec une écuelle de mendiants et chantait les louanges du Seigneur. D'autres gagnaient leur pain quotidien en travaillant dur. Lui demandait humblement qu'on lui donnât le sien. Et de nouveau, on se mettait à rire, et Piquetou à sourire. Car dans le rire, il peut y avoir la gaieté de l'indulgence, mais dans le sourire, entre le dédain. Son habit, son bâton, ses sandales, cette ceinture autour des reins, le désignaient à l'ironie des âmes sceptiques. Il avait bien sûr réparé les murs d'une petite église, mais non tout seul, l'aide lui était venue. Bonne intention et bon travail. À présent, on se demandait où tout cela le menait. Lui aussi peut-être. Pourquoi ne pas rendre la vie à une autre église aussi mal en point que San Damiano? Elle ne manquait pas dans la région. Il résolut de les prendre l'une après l'autre, comme un médecin va de malade en malade. La première fut celle de San Pietro, près des remparts, modeste, encore debout. Avait-il des dons d'architecte? Certains le croient. Il y a souvent un architecte chez un Italien. Le jour vint, ou dans une forêt de chênes, il se trouva devant un vieux sanctuaire de 7 mètres sur 4, déserté, car ne servant que pour les forestiers et les vignerons. C'était une chapelle appartenant aux bénédictins sous le vocable de Notre-Dame des Anges, devenue plus tard Notre-Dame de la Portioncule, c'est-à-dire du petit espace, ou encore du petit bénéfice, car c'était un oratoire de peu de fidèles. Dieu, qui l'attendait partout, l'attendait là pour lui parler d'une façon précise. Mais François savait-il qu'il posait le pied sur le seuil de la gloire humaine dont il ne voulait plus. Avec son énergie habituelle, il se mit à l'œuvre, et par dévotion pour la Sainte Vierge, il décida de vivre en ermite dans ce lieu même où on la vénérait. Les travaux s'achevaient. Un moine du Mont Subasio venait, à la prière de François, dire la messe de bonne heure. Un matin, le jour de la Saint-Mathias, il lui lut ce passage de l'Évangile où Jésus envoie ses apôtres en prédication et leur donne une règle de conduite. Ni or, ni argent, ni monnaie. Ils ne doivent emporter pour la route ni bourse, ni besace, ni pain, ni bâton. Ils ne doivent avoir ni chaussures, ni 2 tuniques. Ils doivent prêcher le royaume de Dieu. Ces paroles firent tressaillir François comme si une voix fût tombée du ciel dans son oreille. La messe terminée, il demanda au prêtre de lui expliquer le discours de Jésus point par point, et à mesure que s'éclairait le sens de ces phrases brèves et décisives, il se sentit enveloppé de joie. Le message attendu depuis si longtemps lui parvenait enfin. Et il eut ce cri. « Voilà ce que je veux, ce que toute mon âme désire. » Du coup, il jeta son bâton, ses sandales, son manteau, sa ceinture de cuir. L'Évangile se révélait à lui dans son éblouissante lumière. Soudain, il devenait le disciple du Christ. Ne le connaissait-il donc pas, l'Évangile? Que de fois il l'avait entendu depuis son enfance. Mais le livre a ceci de particulier qu'on peut l'entendre tout au long des années, et qu'il arrive une minute où il sort de ses pages une voix silencieuse, mais assourdissante, et qu'on ne pourra jamais faire taire. État de l'Église. L'amour filial de François pour l'Église de Rome demeure un des traits les plus marquants de son caractère. De sa jeunesse jusqu'au jour de sa mort, sa fidélité ne connut pas d'instant.